Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Bondy Blog Centre Café. Aujourd'hui, nous sommes au CERCIL, le Centre d'enseignement et de recherche sur les camps d'internement du Loiret, association fondée en 1991 par les municipalités d'Orléans, de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande. Les ont rejoints l'Université d'Orléans, l'association de Serge Klarsfeld, les fils et filles de déportés juifs de France, Henri Bulauco, pardon pour la prononciation, de l'Union des déportés d'Auschwitz, le CRIF, la communauté juive d'Orléans, le CDJC, les Amis de Janzé, la ville de Jargeau, et enfin la mémoire de la Shoah après 2005. Le CERCIL fait depuis partie du 1er janvier, intègre le mémorial de la Shoah depuis le 1er janvier 2018. Aujourd'hui, nous allons aborder le travail d'éducation et de pédagogie du CERCIL, car en effet, le CERCIL est un lieu de ressources historiques où on peut donc trouver des correspondances, des photographies, des objets, des œuvres, des documents d'archives sur les camps de Pithiviers, Bonne-la-Rolande, Jargeau, fournis en grande quantité par les familles elles-mêmes, un lecteur de microfilms qui permet de consulter les microfilms des archives nationales et des archives départementales du Loiret, une bibliothèque avec plus de 5000 titres, d'ouvrages sur la Shoah et plus largement sur le judaïsme, l'histoire des tziganes, les génocides et sur la Seconde Guerre mondiale. Un fonds important est dédié à la littérature jeunesse. Le CERCIL Musée Mémorial des Enfants du Veldiv a donc un rôle de recherche, mais aussi de culture et de pédagogie. C'est sur la culture et la pédagogie portée par le CERCIL au long de l'année que nous allons nous intéresser durant cette émission, avec plusieurs invités autour de la table. Il y a Hervé De Becker, professeur au lycée du Hamel du Monceau à Pithiviers, accompagné de deux élèves et plus un ancien élève. Il y a Émile Brunier, actuellement étudiant en troisième année d'espagnol. Il était en 2015 en section littéraire au lycée du Hamel du Monceau. Il est ambassadeur du CERCIL. Il y a deux autres ambassadrices du CERCIL, actuellement élèves au lycée du Hamel du Monceau. Il s'agit de Maëlle Carbonnier, qui est en première ES, et Pauline Martin, également en première ES. Il y a Christelle Lamour, référente laïcité et citoyenneté à la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse. Donc le pôle laïcité et citoyenneté a été créé en 2015. Christelle Lamour a intégré ce service depuis septembre 2016. Il y a deux photographes, donc l'un français, Christian Gattinoni, et l'autre est allemande, elle s'appelle Nancy Jans. Ils travaillent tous les deux avec des jeunes de la région Centre-Val-de-Loire sur la photographie des lieux de mémoire. Et enfin, Nathalie Grenon, directrice du CERCIL. Bonjour à vous tous. Madame Grenon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce rôle pédagogique et éducatif porté par le CERCIL?
Évidemment, l'histoire des camps d'internement de Pithiviers, de Bonne-la-Rolande et de Jargeau sont intéressantes du point de vue historique, mais ce qu'ils interpellent en particulier, c'est les préjugés vis-à-vis d'une certaine catégorie de la population et jusqu'où ces préjugés vont aller dans les persécutions, puisque c'est ça qui nous intéresse. L'antisémitisme, bien sûr, qui n'est pas seulement un mot en l'air, hein. Il y a des conséquences, et des conséquences, évidemment, ce sont les pogroms, hein, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qu'on a appelé plus tard la Shoah. C'est pas une histoire qui s'arrête avec la Shoah. Hein. Les crimes, aujourd'hui encore, on tue des Juifs pensant qu'ils sont riches. Donc les préjugés sont toujours tenaces. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, on ne peut pas faire de l'histoire sur ces problématiques sans aborder des questions de citoyenneté et de lutte contre les préjugés. Alors il y a par ailleurs le camp de Jargeau, où ont été internées des familles françaises considérés par l'administration comme des nomades, et c'est à ce titre que ces familles sont internées. Fort heureusement, depuis le camp de Jargeau, il n'y a pas de déportation vers l'Allemagne ou la Pologne. Je dis fort heureusement parce que si ça avait été le cas, évidemment, ces familles auraient été tuées à Auschwitz. Ça n'a pas été le cas pour les 16 000 hommes, femmes et enfants juifs internés à Pithiviers et à Bonne-la-Rolande, où là tous, sauf ceux qui se sont évadés souvent avec l'aide de la population locale, mais tous, et notamment les 4400 enfants, ont été assassinés à Auschwitz. Donc les mots peuvent tuer.
Alors, le CERCIL accueille 15 000 personnes par an ici, dans votre musée, peut-être même plus, vous me faites un signe de la main, dans le musée rue du Bourdon-Blanc. Ici, on a autour de la table des élèves du lycée. Quelles sont les autres personnes parmi ces plus de 15 000 personnes? Est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes catégories d'âge, par exemple? Et puis de provenance.
La Seconde Guerre mondiale et en particulier la Shoah est étudiée dès le CM2. Hier, nous avions ici des enseignants, professeurs des écoles en formation. Donc, c'est inscrit dans les programmes dès le CM2. Et puis ensuite, c'est réabordé en troisième, évidemment différemment, avec des perspectives différentes. On aborde les choses différemment. C'est ensuite abordé au lycée en première, en tout cas encore cette année. Et puis, on réaborde la problématique sous un autre biais par l'histoire de la mémoire. Et ça, c'est passionnant de travailler l'histoire de la mémoire de la Shoah. Et cela, c'est étudié en terminale. Donc, en fait, on va dire du point de vue des élèves, nous les accueillons du CM2 à la terminale. Et puis ensuite, on a des étudiants, évidemment, qui nous rejoignent régulièrement, soit pour des travaux personnels, soit pour des visites collectives. Mais ce qu'il y a de particulier ici, c'est qu'en fait, ces élèves reviennent très souvent avec leurs parents. C'est-à-dire qu'ils viennent avec leur classe et on les voit revenir fréquemment le dimanche ou pendant les vacances scolaires avec leurs parents ou leurs grands-parents. Donc c'est rare les lieux de culture où ce sont les jeunes qui demandent à leurs parents. Donc ils deviennent quelque part, sans en avoir le titre, mais des ambassadeurs de cette histoire. Ils deviennent les témoins des témoins. Et au moment où les témoins directs, Simone Veil, Ida Grispan, nous quittent, eh bien, ces jeunes, effectivement, deviennent à leur tour des témoins essentiels de cette histoire.
Alors, on est au bon du bloc Centre Café, on va faire nous aussi un peu d'éducation et de pédagogie auprès de nos auditeurs auditrices. Vous nous avez parlé d'histoire de la mémoire. Qu'est-ce que l'histoire de la mémoire ? À moins que Monsieur De Becker, par exemple, ici présent...
Hervé De Becker l'enseigne, donc je pense que ce serait bien justement qu'il explique quelle perspective l'enseignant a lorsqu'il aborde cette problématique avec ses élèves.
Alors c'est effectivement une question qu'on aborde en terminale générale, particulièrement dans les classes de terminale ES et L, avec le choix que nous avons de traiter l'histoire de la mémoire autour de deux conflits, ou la Seconde Guerre mondiale ou la guerre d'Algérie, avec à chaque fois comme angle d'attaque une interrogation autour de l'évolution de la mémoire d'un événement. Comment ça a évolué depuis cet événement, comprendre pourquoi ça a évolué, c'est-à-dire de comprendre que l'histoire n'est pas la mémoire. La mémoire, c'est une construction. Elle va en s'éteignant, elle est parfois réactivée par un certain nombre d'événements ou par un certain nombre d'acteurs. Et c'est intéressant de travailler avec les élèves parce que ça permet vraiment, d'une part, de voir la particularité de l'histoire qui se nourrit de la mémoire et inversement. Et puis, ça a aussi un intérêt quant à, je dirais, l'éducation citoyenne, puisque il y a des thématiques qui, dans l'actualité, sont vraiment liées justement à ces évolutions mémorielles.
Alors, je me tourne vers un de nos invités qui est photographe, Monsieur Christian Gattinoni. Tout à l'heure, en préparant cette émission, vous m'aviez expliqué pourquoi justement vous aviez, comment vous aviez découvert le CERCIL, et notamment, puisqu'on est en train de parler de la mémoire, en quoi il a contribué à. Y avait des inconnus, vous, sur votre passé. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, tout à fait. J'ai mené un travail de 20 ans sur la mémoire de la déportation, de mon père ayant été déporté résistant à Mauthausen pendant 26 mois. Et donc j'ai récupéré un vieil album, Disdéry, ces albums 19e siècle en cuir, dans lequel il avait collé des documents sur son propre passage à Mauthausen. Et puis, dans les années 60, mais il m'a jamais dit précisément quand, il a tout déchiré. Et cette structure quasi architecturale totalement en ruine, j'ai eu envie de la restaurer et d'y réintroduire les photos de mon père, des photos d'anonymes, etc. C'est comme ça que j'ai commencé les différentes séries que j'ai menées sur ce travail. Et puis, j'ai aussi travaillé en tant que photographe avec des élèves. Et en 2000, avec une classe du lycée aussi de Pithiviers, on a produit un petit livre sur une année de travail avec des élèves. qui s'appelait donc Cicatrices, trois camps français, qui concernait donc Jargeau, Bonne-la-Rolande, et voilà. Et du coup, j'ai pu trouver au CERCIL des interlocuteurs de grande qualité qui m'ont permis d'accompagner mon travail aussi de photographe avec des élèves. C'est ce qu'on fait cette semaine avec Nancy Jans.
Alors, le CERCIL, c'est un musée, mais pas seulement. C'est un lieu de recherche et l'histoire suit son cours et les recherches également. Il y a un travail perpétuel de recherche, en fait, qui ne s'arrête jamais, qui n'est pas terminé, qui ne se terminera jamais, on peut dire.
On peut dire ça comme ça. En même temps, c'est vrai que je le disais à l'instant, les derniers témoins sont en train de nous quitter. Donc en fait, il ne nous restera que la matérialité des preuves, les lettres, les photographies, mais tout ce qui est témoignage oral, évidemment, là, on va avoir des difficultés. Je pense à une dame qui récemment nous a donné une carte d'identité de sa maman avec le tampon juif. C'est vrai qu'évidemment, la carte, il y a la matérialité, elle est rentrée dans nos collections, mais évidemment, ce que cette femme nous a rapporté de la vie de sa maman durant la Deuxième Guerre mondiale, où elle a été contrainte de se cacher, évidemment, pour ne pas être assassinée. Si nous n'avions pas eu le contact direct avec cette dame, la carte d'identité n'en dit pas grand-chose. Elle montre la persécution, elle montre le marquage, elle montre la discrimination, mais elle ne parle pas, évidemment, du récit de vie de la dame dont il est question sur cette carte d'identité.
Justement, vous avez donc dit que les derniers témoins sont en train de disparaître. Est-ce que ça ne compléterait pas, après, le travail de transmission de la mémoire, justement, s'il ne reste que des preuves matérielles, et je m'adresse aussi à M. De Baker, comment vous faites pour continuer à transmettre la mémoire avec... cette disparition de témoins est intéressée des jeunes qui sont de plus en plus éloignés au niveau en termes générationnels de ce passé historique, en fait.
En fait, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit depuis un certain nombre d'années. Vous savez que l'allongement de la durée de vie fait qu'on a quand même gagné une dizaine d'années de présence de nos témoins. Donc ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on réfléchit à cela. C'est un peu pour ça qu'on a aussi des ambassadeurs. C'est-à-dire que nous devenons les témoins des témoins. Et nous, on a connu les témoins en direct. Nos jeunes générations, ils auront nous. Ils auront la matérialité des preuves. Il faut dire aussi que la technologie avance. Aujourd'hui, on a des enregistrements vidéo de très bonne qualité. Ça ne remplacera jamais la rencontre avec le témoin physique. C'est d'une grande évidence. Mais il y a aujourd'hui d'autres technologies qui permettent effectivement de rendre tangible, en tout cas, cette mémoire orale.
Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne nous simplifie pas la tâche, parce que dans toutes les rencontres qu'il y a eu entre des témoins et des élèves, il y a quelque chose qui se passe. Il y a la réalité de la personne qui peut passer par un regard, une parole, une remarque qui peut paraître anodine, mais qui en fait donne tout son sens à son témoignage. Et tous les élèves le disent quand ils rencontrent des témoins qui ont vécu ces événements, ça change beaucoup de choses, ça change beaucoup le regard. Alors, c'est vrai que c'est une réalité, il y a ce contexte qui ne nous facilite pas la tâche. En même temps, c'est vrai qu'on est dans un moment, dans un contexte où on a aussi énormément d'outils. Il y a un intérêt pour la Shoah et pour toutes ces questions mémorielles qu'il n'y avait peut-être pas il y a encore quelques années. Donc en même temps, on a aussi, par certains côtés, on a plus de facilité peut-être qu'à une époque par les outils, par les possibilités que nous avons pour effectivement transmettre l'histoire par le biais des témoignages enregistrés, etc.
Vous voyez, nous sommes dans la bibliothèque du CERCIL et autour de nous, vous voyez des portraits. Donc ce sont des photographies réalisées par Géraldine Arestéanu depuis 10 ans. Le point commun de ces hommes et de ces femmes autour de nous, c'est que leurs papas ont été arrêtés lors de la première rafle de Juifs en France, 14 mai 41, qui signe également l'ouverture des camps, des premiers camps français où ne seront internés que des Juifs, Pithiviers, Bonne-la-Rolande. Leur autre point commun, c'est que s'ils ont pu être photographiés ces 10 dernières années, c'est qu'ils ont été sauvés. Et s'ils ont été sauvés, c'est qu'ils ont été cachés. Et donc, c'est aussi une façon d'avoir ces leurs regards, ces portraits contemporains, c'est aussi une façon de transmettre. Donc effectivement, et tout le travail qui va être fait aussi par Christian et Nancy cette semaine avec des élèves, c'est aussi la question de la transmission. Donc on essaie effectivement d'utiliser des outils différents pour réfléchir effectivement à comment demain on va pouvoir incarner cette histoire qui n'est pas seulement un fait historique. Hein. On n'est pas là pour parler des guerres napoléoniennes. On voit bien, et Hervé vient de le dire, que la question de la Shoah ne concerne pas que l'histoire, elle interroge notre temps présent, évidemment.
Et ça, c'est un des grands angles, finalement, d'attaque et d'intérêt de ce pan de l'histoire. C'est les résonances avec l'actualité. En quoi ça donne aussi, pour les élèves, des outils de compréhension du monde actuel, de décryptage de certaines paroles publiques, de certaines paroles dans l'actualité.
Vous parlez de résonance avec l'époque actuelle, notamment avec, dans les années 30, il y avait la montée du fascisme et de l'extrême droite. On peut plus ou moins observer, on peut faire des rapprochements avec la situation aujourd'hui, notamment avec l'élection Brésil, États-Unis, ce genre de choses.
Oui, puis on peut aussi, quand on entend certains discours, alors on pense tout de suite à l'extrême droite, mais il y a aussi des discours qui ne sont pas aux extrêmes, où on se rend compte dans le vocabulaire et dans les thématiques qu'il y a quand même un glissement en termes de mots, ce ne sont pas des paroles en l'air, les paroles ont un poids, on se rend compte avec la libération d'une certaine parole, xénophobe, etc., qu'on retrouve dans, effectivement, des prises de parole publiques qui ne sont pas simplement le fait de personnes à l'extrême droite. Et en ce sens, c'est vrai que revenir sur l'histoire de la Shoah, c'est montrer, c'est décrypter tous ces mécanismes, parce que dans tout ce processus, pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait au départ il faut qu'il y ait déshumanisation, et que la déshumanisation commence notamment par les mots.
Alors, on a des jeunes autour de la table. Alors, je pense à Maëlle et Pauline qui, depuis l'année dernière, travaillent avec vous, monsieur De Becker, sur ces questions-là, dont le regard effraie, j'ai envie de dire. Et puis, le regard peut-être plus aguerri d'Émile Brunier qui, avec le recul, nous fera son analyse et ce petit retour en arrière. Mais vous, Maëlle et Pauline, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs, auditrices, concrètement ce que vous vivez en cours avec votre professeur quand vous abordez donc le sujet de la Deuxième Guerre mondiale?
Bah déjà, ça nous intéresse. Moi, c'est toujours un sujet qui m'a intéressée. J'ai des arrière-grands-parents qui ont été déportés, etc. Ça m'a toujours intéressée. Et en parler en cours, je trouve que ça intéresse beaucoup de monde, déjà. C'est un des sujets qu'on traite en histoire ou en géographie qui intéresse le plus. On a tous, dans ma classe, on a tous hâte de commencer la Première et Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on sait que c'est des sujets qui vont nous intéresser, où ça va être plus facile de s'investir dedans. Et aussi, c'est souvent des sujets où on fait beaucoup de travaux pratiques aussi. L'année dernière, on a fait des affiches sur les différents camps ou sur la déshumanisation, des sujets comme ça. Et après, ces affiches, on les a expliquées à des élèves de CM2. Et c'était une expérience géniale. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien parce qu'on voyait qu'on leur apprenait quelque chose, que ça, eux aussi, ça les intéressait. Et on se sentait utile. On se sentait utile à la transmission de la mémoire, etc. Des choses qu'à nos âges, c'est compliqué de se sentir utile sur ce plan-là. Voilà.
Alors, j'ai une autre question pour vous. C'est pas un sujet, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas un sujet marrant, facile, enfin je veux dire pour des jeunes quoi. C'est pas un sujet léger. Comment vous le vivez? C'est affreux ce qui s'est passé. Pourquoi justement ce besoin de transmettre à des CM2? Non, mais je ne sais pas si vous comprenez le sens de ma question. On imagine que des élèves en CM2, on leur raconte des histoires, des contes. Là, on parle de la réalité. C'est une réalité humaine. Comment vous le vivez? Ça ne vous fait pas peur d'aborder ces sujets-là, justement? Ou vous, des camarades, est-ce qu'il y en a qui ont des réticences?
Il faut en parler. Enfin, c'est pas... faut pas le cacher, que ce soit l'Allemagne ou la France, il y a eu des erreurs. Mais les erreurs, si on n'en parle pas, on n'en apprend rien, en fait. Et le principe de faire une erreur, c'est qu'une fois qu'on a fait l'erreur, on sait qu'elle a été commise et on ne la reproduit pas. Et si on n'en parle pas, on ne pourra pas ne pas la reproduire.
D'accord. Alors vous disiez que vous, ces deux sujets vous intéressaient parce qu'ils faisaient écho à votre histoire personnelle, celle de votre famille. Pauline, et vous-même, est-ce que ces deux sujets vous intéressent ? Enfin, celui plutôt de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, moi, c'est des sujets qui m'intéressent parce que c'est plus concret. Enfin, c'est l'histoire propre de la France, je dirais, plus que d'autres sujets qui sont un peu plus... je sais pas comment expliquer, mais plus... je sais pas. Oui, plus vague. Et voilà.
D'accord, très bien. Émile également, est-ce que vous pouvez nous expliquer à l'époque ce que vous faisiez donc, quand vous étiez élève avec M. De Becker ?
Oula, ça remonte à loin. Alors...
Oui. Oh, non, pas si loin, à votre âge. C'était en 2015, hein, c'est ça ? Donc vous étiez en section littéraire au lycée du Monceau à Pithiviers.
C'est ça. Alors, c'était la première. On était les premiers ambassadeurs, il me semble. Quand le prof il nous a dit, enfin quand Monsieur de Bacquier ici présent a dit à toute la classe qu'il allait organiser je sais pas comment dire cet événement, moi personnellement ça m'a tout de suite intéressé parce que comme elle disait tout à l'heure c'est l'histoire de la France, voilà. Et comme on est français, déjà de base, moi je me sens concerné. Et après, j'étais déjà intéressé par la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale depuis le collège.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer, vous trois, celui ou celle qui le veut bien, concrètement, vos visites avec le CERCIL, le travail que vous faites avec le CERCIL, est-ce que vous pourriez donner à nos auditeurs et auditrices des éléments de compréhension pour qu'on comprenne bien justement en quoi le CERCIL, puisque vous êtes passionné par la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que vous a apporté le CERCIL dans cette approche de la Seconde Guerre mondiale ?
Ça nous a apporté un peu plus de connaissances déjà.
J'aurais beaucoup aimé avoir l'occasion de rencontrer un témoin. Et malheureusement, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, j'en ai pas eu l'occasion et je pense que j'en aurai peut-être jamais l'occasion. Et au CERCIL, il y a des vidéos de témoins que j'ai pu visionner. Et. Même si on ne les voit pas en vrai, qu'on ne peut pas leur poser des questions, etc., je trouve ça vraiment bien de pouvoir au moins voir le témoignage, les voir eux, le raconter, voir leurs émotions quand ils le racontent. Rien qu'à l'émotion de la voix ou au visage, on voit que c'est des choses qui les ont touchés et qui sont gravées en eux. Et je trouve ça vraiment bien qu'ici, on puisse avoir accès à toutes ces ressources qu'on n'a pas forcément ailleurs.
Non, vous venez de dire un mot, vous vous rappelez, je l'ai dit en début d'émission, on va essayer de comprendre comment justement le travail du CERCIL permet de donner du sens à l'histoire, et vous avez parlé d'émotion. Si vous aviez rencontré un témoin, en tout cas en voyant des vidéos, une émotion. Est-ce que c'est nécessaire aussi, cette émotion, quand on apprend l'histoire, Monsieur De Becker ?
Alors, sur un tel sujet, il y a un moment, l'émotion est là, parce que quand on travaille sur un sujet aussi difficile, de toute façon, on est des êtres humains, même moi en tant qu'enseignant, ça me touche. Quand on emmène des élèves sur des lieux de mémoire, il y a cette émotion qui est là. Et il faut passer par ce stade, puisque nier la réalité de ces émotions, c'est en faire, c'est ramener la Shoah à un processus extrêmement froid, et c'est oublier que derrière, les victimes, c'était des êtres humains. Ce qui est important, c'est de dépasser cette émotion. C'est d'expliquer, d'analyser la réalité du processus, comment on est arrivé là, comment il s'est déroulé. Mais c'est vrai que l'émotion, Oui, elle est là et par certains côtés, elle est presque nécessaire. C'est une étape, mais il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Voilà.
Est-ce que cette émotion et cette implication, on la retrouve aussi dans d'autres sujets, comme par exemple la guerre d'Algérie, qui peut être aussi un sujet émotionnel et sensible?
Alors,
c'est propre au sujet de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah.
Alors, sur la guerre d'Algérie, on peut travailler sur la guerre d'Algérie en terminale sur la mémoire de la guerre d'Algérie si on ne traite pas de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est un sujet que j'ai déjà enseigné, notamment quand les nouveaux programmes de lycée sont arrivés. Disons que en ce qui concerne la guerre d'Algérie, liée sans doute à l'évolution de la société, les élèves ont moins de ressenti par rapport à cette question. Alors aussi lié au fait que, par exemple, c'est un événement qui est moins visible au cinéma, etc., sur ce type de support. Donc les élèves ont beaucoup moins d'accroche par rapport à ce sujet, même si sur le plan mémoriel, c'est un événement qui est extrêmement riche à analyser.
C'est pas la même chose. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie, c'est une guerre qui plus est, c'est pas vraiment déroulé sur notre territoire. C'est un petit peu la Première Guerre mondiale en Allemagne, c'est pas la même chose que la Première Guerre mondiale en France. La Première Guerre mondiale, elle a eu lieu sur notre territoire, elle a pas eu lieu en Allemagne. Ce qui d'ailleurs va une des raisons qui vont expliquer aussi le ressentiment contre les Français. Les Allemands comprennent pas. Ça s'est pas déroulé chez eux. Ils comprennent pas entre les deux guerres. La guerre d'Algérie, il y a eu évidemment les attentats, etc. Mais c'est pas sur notre territoire. Et puis c'est pas non plus la même chose, c'est-à-dire que la Shoah, c'est un génocide. Donc l'émotion dont vous avez très très bien parlé, et effectivement qu'il faut tout de même mettre à distance pour aborder les mécanismes, on va avoir la même émotion quand on va parler du génocide des Arméniens. Et puis vous avez parlé du Rwanda concernant le génocide des Tutsis. Parce que on a là des milliers d'enfants, des milliers de femmes, des milliers d'hommes, et pas seulement des combattants. Donc c'est pas le même type d'émotion, parce que ce n'est pas non plus le même fait historique.
Ce que je voulais dire en tout cas, c'est que voilà, des lieux comme le Cercil, des musées, permettent d'avoir une émotion peut-être plus qu'un livre avec des photos en noir et blanc et seulement deux dimensions. Enfin, c'est ce que vous vouliez dire peut-être, je sais pas si je me trompe.
Oui, forcément. Mm-hmm. Le lieu en lui-même déjà, ça exprime plus de choses qu'un livre. Ou que n'importe quel professeur.
Émile.
Alors, moi, au début, quand je l'ai visité pour la première fois, j'étais tout petit, je devais être en primaire. Et ce qui m'a choqué le plus, en fait, c'est la salle au fond, avec toutes ces photos d'enfants déportés. Ça m'a choqué. Et quand je suis revenu avec le lycée, j'ai eu des frissons en fait, mais de se dire que tous ces enfants, ils ont été déportés, c'est des frissons. Ouais.
Christelle Lamour, vous êtes référente laïcité et citoyenneté à la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, depuis septembre 2016. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte cette fonction, cette mission a été mise en place en 2015, donc c'était après les attentats. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi?
Oui, donc les postes de référent laïcité citoyenneté à la protection judiciaire de la jeunesse ont été créés en avril 2015 suite aux attentats et au phénomène un peu de radicalisation et en tout cas un départ assez massif de jeunes vers des zones de conflit. Et donc la question s'est posée au sein de la PJJ, mais dans d'autres administrations, de comment on pouvait traiter les questions de citoyenneté avec des jeunes, donc suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, quels étaient les angles qu'il fallait, sur lesquels il fallait appuyer. Donc moi, quand je suis arrivée effectivement en septembre 2016, ayant fait des études d'histoire, je me suis assez vite rapprochée du Cercil pour voir un petit peu ce qui était possible de faire avec des jeunes pris en charge par la PJJ et au sein du Cercil. Et l'approche du Cercil en termes éducatifs, elle est pour nous très précieuse parce que c'est une approche très individualisée en tout cas pour les publics qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'il y a un échange, une construction sur les projets qu'on souhaite mener. Et ce qui était important aussi, c'est que on aborde l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah de façon très locale, territoriale et humaine. C'est-à-dire que, en tout cas, pour certains jeunes qui sont suivis, il y a une difficulté à se représenter les millions de morts. Et voilà, c'est quelque chose de très abstrait, même pour d'ailleurs d'autres types de populations. Donc le fait de pouvoir ancrer une histoire d'une personne ou d'un groupe de personnes sur un territoire, c'est quelque chose qui fait sens. Et je reviens sur ce que disait Maëlle, c'est que même si effectivement il n'y a pas une rencontre physique avec un témoin, le fait d'aller à Pithiviers avec les photos de la Deuxième Guerre mondiale et d'être sur le même lieu, ça crée vraiment quelque chose d'une compréhension de ce qui a pu se passer. Ça ancre les choses, ça rend les choses un peu plus réelles finalement pour les jeunes, mais je pense que pour des moins jeunes c'est aussi le cas. Et en tout cas, nous, le travail qui est mené avec le CERCIL, c'est vraiment un travail qui est riche, varié, parce que les ressources documentaires du CERCIL, il y a de la vidéo, de la BD, c'est du coup très, en termes de support pédagogique, on n'est pas sur des livres qui peuvent un peu parfois être difficiles d'accès. Et donc, du coup, il y a vraiment une adaptation au public, aux objectifs qui sont fixés de concert entre le CERCIL et les éducateurs. Et du coup, ça permet d'avoir un impact vraiment important sur les jeunes qui bénéficient des ateliers.
Alors, ces jeunes, par exemple, ils font partie de l'UEAJ, Unité Éducative d'Accueil de Jour, de Centres Éducatifs Fermés, des CEF. Quels sont les retours qu'ils vous font sur cette expérience avec le CERCIL ?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu deux types de projets de menés. Donc, l'UEAJ a mené un travail autour des femmes, parce que ça répondait aussi à une problématique qui était rencontrée au sein de l'unité, de propos sexistes, de relations aux femmes un peu difficiles. Donc, c'était aussi de mettre à distance cette problématique-là et de la retravailler au sein du CERCIL. Et...
Les femmes dans la résistance, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Les femmes dans la résistance. Et il y a eu plusieurs ateliers avec différents supports. La projection d'un film, la visite de Pithiviers. Donc ça a permis, une visite du musée aussi, ça a permis de varier les ateliers et de travailler sur la place des femmes. Alors, dans la résistance, mais aussi de re-questionner la place des femmes aujourd'hui, la question de la discrimination. Entre chaque séance, il y a eu effectivement des retours. Alors, c'est toujours des retours qui ne sont pas forcément très formels, mais il y a un moment, un jeune peut dire, on a vu à Pithiviers ça. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui mûrit. Je pense qu'il est peut-être un peu difficile de mesurer les effets du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui mûrit et qui fait réfléchir les jeunes. Le projet du centre éducatif fermé était lui tourné autour de la propagande. Le professeur des écoles avait mené avec le CERCIL deux ateliers sur la propagande et les dessins animés de propagande. Il a pu faire ce travail d'éducation et de transmission de connaissances autour de la Deuxième Guerre mondiale. Et à travers la propagande, on travaille aussi la citoyenneté par le développement de l'esprit critique et de prendre du recul sur les informations qu'on nous transmet tous les jours. Et donc, c'est évidemment transférable à aujourd'hui.
C'est très moderne, j'ai envie de dire. On parle d'histoire, mais c'est moderne, l'histoire.
Oui, c'est moderne. Et puis, parce que c'est aussi important pour les jeunes que... on est citoyen, quand on parle de citoyenneté, on est citoyen dans un endroit à un moment donné. Et il faut savoir d'où, pourquoi on est ici à ce moment-là et qu'est-ce que l'histoire nous apprend de la société aujourd'hui. Et c'est vrai que le CERCIL, avec cette approche très individualisée, elle peut répondre à des problématiques qui peuvent être très pointues, en tout cas dans les jeunes qui sont suivis par la PJJ, notamment je pense à des jeunes issus de la communauté du voyage ou ce 10 ans issus de la communauté du voyage, donc ça renvoie aussi à leur propre identité et à leur construction de l'identité, et j'aime cette l'approche de l'identité multiple du CERCIL, elle est intéressante aussi pour nos jeunes parce que quand on a un jeune suivi par la PJJ, on a une identité de délinquant. Sauf que c'est aussi le rôle de l'éducation, et du coup le CERCIL travaille avec nous dans cette identité multiple. C'est on est délinquant, on a commis en tout cas des délits, mais on est aussi fils d'eux, enfant d'eux, on est autre chose. Et nous, dans l'éducation, c'est bien ça qu'on cherche à faire, c'est effectivement, il y a des délits qui ont été commis, mais vous êtes capable et vous n'êtes pas que des jeunes issus des quartiers ou issus de l'immigration ou délinquants. Donc ça, c'est très important.
Vous avez expliqué aussi donc des ressources telles que la photo plus accessible pour des jeunes, parce que là on enregistre dans un studio avec 5000 ouvrages autour de nous, 5000 livres, ça prendrait beaucoup de temps, il faut aimer lire aussi. Il y a des jeunes par exemple dont vous parliez qui peuvent être en situation de décrochage scolaire, qui n'aiment pas forcément lire. Par contre, à qui la photographie va leur permettre de mieux comprendre justement l'histoire. Je me tourne à présent vers monsieur Gattinoni et puis également Nancy James. Alors, vous pouvez parler en anglais, puis je traduirai. If you speak in English, I will translate. Comme ça, vous verrez que j'ai un super accent. Non, allez, sérieusement, monsieur Christian Gattinoni, parlez-nous de ce travail photographique que vous faites avec des jeunes.
Oui, ça fait de nombreuses années que j'ai travaillé, notamment dans les relations entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, pour former des gens, les profs, les gens aussi du ministère qui peuvent passer des commandes, etc., à ce qu'est la culture photographique, parce que je pense que c'est essentiel. Alors, je veux pas trop déborder sur la deuxième partie, mais je pense que il y a une question très grave aujourd'hui, c'est que quand vous avez peut-être parmi votre public des gens qui sont analphabètes, eh bien ils se connaissent comme analphabètes. Ce qui est grave, c'est que on est en train de former des analphabètes de l'image qui ne savent pas, qui se croient en sympathie avec l'image, alors que l'image est quand même un langage qui peut paraître assez immédiat, mais qui est un langage et qui doit être appris grâce à une culture. Et cette culture, elle est donnée en partie au lycée, on le sait, par les profs d'art plastique, par les profs de lettres, de littérature qui essayent de voir comment déchiffrer une image, etc., par les profs d'histoire aussi. Mais c'est pas un enseignement suffisant, et c'est pour ça que c'est toujours important quand des artistes ou des praticiens, en tout cas, peuvent intervenir dans le cadre de l'éducation nationale. Et c'est ce qu'on a toujours mené avec l'École nationale supérieure de la photographie, où j'ai été enseignant jusqu'à l'année dernière. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec d'autres structures sur place. Par exemple, je travaille beaucoup avec le GRAF à Carcassonne, qui depuis 30 ans travaille avec différents publics. Ils ont sorti il y a 3 ans un livre qui était 10 ans d'expérience avec une photographe avec des femmes gitanes qui ont fait leur propre livre, qui ont fait leurs propres photos sur leur vie. Et c'est vrai que cette culture de l'image, elle est vraiment essentielle. Pour que les gens puissent, d'autant que maintenant c'est tellement facile avec les portables de faire des photos, c'est important de savoir utiliser ce portable pour travailler autrement l'image.
Oui, monsieur De Becker.
Alors je rebondis sur ce que disait Christian, puisque j'ai moi-même pu faire profiter à mes élèves de son expérience et de cette initiation à la photographie il y a 2 ans, dans le cadre d'un projet où les élèves sont partis, en partenariat avec le CERCIL notamment, sont partis sur différents lieux de mémoire liés à la Shoah, depuis en partant de Pithiviers, jusqu'en Allemagne et jusqu'en Pologne. Ils sont partis donc en Allemagne et en Pologne sur les différents lieux de décision, mais aussi les lieux d'application de la Shoah, avec comme point d'orgue une visite du centre de mise à mort de Treblinka. Alors c'était un voyage qu'ils ont réalisé, préparé, et qu'ils ont réalisé avec une classe d'élèves allemands. Donc tout s'est fait avec eux. Et l'objectif de ce voyage, c'était justement de travailler sur la mémoire des lieux à partir de la photo. Et donc les élèves avaient eu une formation à la photo avant de partir, par Christian Gattinoni, avec, je le constate moi-même en tant qu'enseignant, ils sont accrochés à leur smartphone. Ils ont un appareil photo dessus, et lors de la formation, ils ont découvert des choses insoupçonnées sur leur appareil, avec l'idée que c'est un instrument, mais qu'il faut savoir, comme tout instrument, il faut savoir s'en servir. Et ça a changé beaucoup de choses, et le résultat, dans une exposition, a vraiment été assez fantastique. On a découvert des regards, des points de vue, des choses très intéressantes. Je me souviens notamment d'une photographie prise au cimetière juif de Varsovie, où l'élève dès le départ avait choisi de faire une photographie en noir et blanc, qui était absolument qui était bouleversante, et d'un élève qui avait fait une photographie sur les rails pris dans l'herbe, mais à Pithiviers, les rails de la gare, et même chose, la photographie était absolument étonnante, et tout ça à partir de leur smartphone.
Oui, parce que on en a parlé tout à l'heure dans l'émission, on a évoqué la propagande nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait déjà une utilisation de l'image et de la photo. Il faut éduquer à l'image, en fait. Et aujourd'hui, notre société qui a évolué avec des téléphones portables, vous le disiez, une omniprésence de l'image, une plus grande présence de l'image que en 39-45, il est indispensable, incontournable, je pense, d'éduquer à l'image. Nancy Jans, vous êtes en France depuis combien de temps? How long is it since you came in France?
I will be here one week, about one week.
Ça fait une semaine and, que oui. Vous êtes arrivé.
And as I understood now, it was the question of you was about the images are always about around us and oui. how we can
les images sont
transport
tout autour de nous.
The sense of doing photographs to the young people. And I think there are some ways to explain the importance of everyone,
de chacun,
image,
l'image and de chacun.
And to use different views and points of view. I think
différents points de vue.
Everything was already told about this possibilities. And we just have to focus the well not we but the people has to focus to a work and I think they already told also that they are it is very important in learning to have a practice. And this is, I think, what we are doing, that we practice with a theme which is very difficult. And so I was very touched to be invited here to get in touch with this problem.
Par
and
exemple,
how far we can go inside. This is what I'm really astonished about the work of the CERCIL. That how far we can go inside and to the what I hear already also to the personal lives of the prisoners and so, and this is everything.
Donc elle est impressionnée par la profondeur dans laquelle on peut aller dans la recherche de l'histoire sur l'histoire d'un individu. Mm-hmm.
Par exemple, quand je suis intervenu aussi avec le CERCIL à Osterburg, avec des lycéens, j'ai commencé la première séance par leur montrer la différence entre un selfie et un autoportrait, en amenant beaucoup d'expériences d'autoportrait pour montrer comment on pouvait travailler ces questions, parce que pour les images qu'ils devaient faire ensuite là sur le thème de la frontière, eh bien, était important qu'ils puissent signer par un autoportrait les images qu'ils allaient faire. Et donc, voilà, le genre de différence qu'on peut apporter par des exemples historiques avec des photos depuis l'invention de la photographie jusqu'à aujourd'hui, et beaucoup d'exemples d'aujourd'hui d'ailleurs, puisque c'est important qu'ils soient en contact avec la création vivante qui témoigne du monde, de la réalité du monde, à travers des choses qui ne sont pas si compliquées que ça, parce qu'au contraire, et je pense que c'est vrai aussi pour... c'est là où l'éducation nationale est souvent en faute, c'est que les auteurs contemporains sont aussi importants et aussi accessibles que les classiques, et que certains classiques ne fonctionnent plus du tout. Donc, montrer des exemples d'artistes contemporains, on parlait avec Nancy, par exemple, de Alan Sekulow ou de Christian Boltanski, et c'est des artistes importants à faire connaître à des jeunes, parce que c'est des gens qui travaillent aujourd'hui dans différentes générations.
Et d'ailleurs, Christian parle de Christian Boltanski, et Émile explique combien il a été troublé lors de sa première visite en CM2 du Mémorial des Enfants. Donc ce mémorial est constitué de 4400 enfants qui ont été internés à Pithiviers et au Beaune-la-Rolande et assassinés à Auschwitz. Et je me suis beaucoup évidemment inspirée du travail de Boltanski, puisque vous savez que c'est le seul endroit au monde où les 4400 enfants sont représentés, que l'on ait ou pas leurs photos. Ce travail de Boltanski en particulier, pas seulement, mais en particulier, montre effectivement l'absence. C'est difficile d'incarner l'absence. Comment on incarne l'absence? Or, un génocide, c'est ça. On parle de millions de personnes assassinées, mais on les a non seulement assassinées, mais on a aussi supprimé les traces. Donc, en l'occurrence, et je pense profondément que si le mémorial des enfants a ce pouvoir à la fois émotionnel, évocateur, pas qu'émotionnel, mais aussi évocateur, eh bien, c'est parce qu'il y a seulement 1500 photos et que les autres enfants sont incarnés par une case blanche.
C'est un juste retour des choses que Nathalie et le Cercil se soient inspirés de Boltanski pour créer ce mémorial qui est effectivement très, très touchant. Parce que Christian Boltanski a copié une partie de son travail sur Yad Vashem, le mémorial des enfants de Yad Vashem. Donc, c'est un juste retour de l'histoire.
Alors, on a commencé à aborder la deuxième thématique de notre émission. Sous votre contrôle, je vais vous dire ce que j'ai retenu des échanges que vous avez pu avoir les uns et les autres. Le CERCIL mène donc des actions éducatives, et les apports du CERCIL sont, on a parlé de la dimension émotionnelle qui peut être portée par la personnification justement de ces milliers de personnes, par exemple, déportées, mais avec des histoires individuelles. C'est-à-dire que on comprend mieux les parcours de chaque personne, l'histoire de chaque famille et de chaque individu. C'est ce que vous avez dit, hein, d'accord. On a aussi parlé de la dimension pratique. On pouvait manipuler des photos, on pouvait travailler avec des appareils photo, avec des téléphones portables. Cette dimension-là également, vous avez évoqué, d'accord. Et puis aussi, cette dimension dont on a parlé avec Madame Lamour tout à l'heure, cette modernité, en fait, comment justement ces sujets de notre histoire française, les jeunes aussi, vous en avez parlé, résonnent aujourd'hui encore. On voit encore aujourd'hui des discriminations diverses. Vous parliez, par exemple, vous avez évoqué la place des femmes dans notre société, et on se penche sur la place des femmes durant la Résistance. Est-ce que j'ai oublié de parmi tout ce que vous avez pu dire, c'est ça, donner du sens à l'histoire, en fait. Le CERCIL contribue à ça parce qu'on manipule des objets, des photos, on les voit, on peut se ressentir des émotions aussi, et puis parce que c'est encore en lien avec notre histoire contemporaine. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec les mêmes invités. Donc il y aura Hervé Debecker, professeur au lycée du MML du Monceau, Émile Brunier, Maëlle Carbonnier, Pauline Martin, tous les trois élèves ou anciens élèves. Donc Émile, étudiant, ancien élève au lycée du MML du Monceau, Maëlle Carbonnier et Pauline Martin, actuellement élèves en première ES au lycée du ML du Monceau. Christelle Lamour, référente laïcité et citoyenneté à la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Deux photographes, Christian Gattinoni et Nancy Jans. Et enfin, Nathalie Grenon, directrice du CERCIL. À la semaine prochaine.